minutes devant la presse dans le bureau ovale. Le ton est monté. Chuck Schumer, Nancy Pelosi et Donald Trump se sont interrompus les uns les autres à plusieurs reprises. Le chef des démocrates au Sénat a rappelé au président qu'il mentait régulièrement. Donald Trump a confirmé que la construction du mur à la frontière était pour lui un point de fixation sur lequel il n'entend pas lâcher. Si vous doutez de son efficacité, demandez aux Israéliens, a-t-il lancé. Ce mur est indispensable pour nous protéger des terroristes. Chuck Schumer a accusé Donald Trump de vouloir provoquer un shutdown, c'est-à-dire une paralysie de l'administration, en refusant tout compromis sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre. Les républicains ont besoin des voix démocrates pour voter ce budget, mais les démocrates n'entendent pas dépenser plus d'1,6 milliard pour la sécurité à la frontière, et la Maison-Blanche menace effectivement de bloquer le processus si le financement du mur n'est pas acquis. Donald Trump vient de le confirmer. Les Américains veulent que l'administration puisse fonctionner, a rappelé la chef des démocrates à la Maison-Blanche, à la Chambre. Nancy Pelosi a finalement suggéré que la conversation se poursuive en privé, et leur rendez-vous vient de s'achever. A priori, Clément, aucun accord ne sera trouvé aujourd'hui entre les démocrates et le président.
Anne Corpet en direct de Washington.
La Russie rendait hommage aujourd'hui à sa plus ancienne militante des droits de l'homme.
Lyudmila Alexeva est morte la semaine dernière à Moscou à 91 ans. Une cérémonie funéraire était organisée aujourd'hui. L'ancienne dissidente soviétique était l'une des figures de l'opposition russe. L'opposition dont plusieurs représentants étaient présents à l'hommage. Autre participant, plus étonnant peut-être, Anastasia Bekio, le président russe lui-même.
Vladimir Poutine a fait le déplacement à la maison centrale des journalistes pour déposer un bouquet de roses rouges au pied du cercueil de Lyudmila Alexeyeva. L'an dernier, le président russe en avait surpris plus d'un en s'invitant chez la militante à l'occasion de son 90e anniversaire pour lui offrir une gravure de Patoria, la ville de Crimée qu'il a vue naître. La Crimée, rattachée à la Russie en 2014, Lyudmila Alexeyeva y était fermement opposée. On ne peut pas être d'accord avec elle, on peut se disputer, je le fais parfois, mais cela n'empêche pas de la traiter avec un énorme respect pour son courage et sa position civile, avait alors déclaré Vladimir Poutine. Cette infatigable et courageuse militante, devenue très frêle au fil des ans, était de toutes les manifestations de l'opposition. Plusieurs figures de cette opposition étaient présentes à l'hommage ce matin, parmi elles Alexei Navalny. Dans un message de condoléances, l'ancien président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a salué un exemple inspirant de citoyenneté et de patriotisme pour les jeunes générations. Absent également de la cérémonie, Lev Ponomarev, compagnon de route de Lyudmila Alexeyeva, ce militant des droits de l'homme, âgé de 77 ans, purge une peine de 16 jours de prison pour avoir relayé sur Internet un appel à participer à une manifestation non autorisée.
Anastasia Bekio, Jamal Khashoggi, personnalité de l'année selon le magazine américain Time. Ce journaliste saoudien a été assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en octobre dernier. Il partage cette distinction du Time Magazine avec plusieurs autres journalistes. Outre Jamal Khashoggi, donc, l'hebdomadaire américain met à l'honneur une journaliste philippine et deux reporters birmans actuellement en prison, ainsi que la rédaction d'un journal local américain dont 5 membres sont morts lors d'une attaque perpétrée en juin dernier.
Du football, maintenant Clément, le Paris Saint-Germain joue son dernier match de phase de groupe en Ligue des Champions.
Oui, les Parisiens se déplacent sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. Une victoire et le Paris Saint-Germain serait assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Belgrade-PSG, ce sera à suivre en direct sur RFI. Rendez-vous à partir de 20h55, heure de Paris, avec Christophe Jousset et Hugo Moissonnier aux commentaires. Pour l'instant, il est 19h14 à Paris. RFI Soir avec Marie Cazadebet.
Merci Clément Fraioli.
RFI Soir, Marie Cazadebet.
Notre rendez-vous de la rédaction après l'annulation du vote de la Chambre des communes. Les députés britanniques auraient dû s'exprimer ce mardi sur l'accord sur le Brexit. Mais faute de soutien, la Première Ministre a entamé une tournée européenne. Berlin, puis Bruxelles, où elle doit s'entretenir avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, les députés s'impatientent. Juliette Garbrand a joint pour en parler. Nathalie Brac, professeure à l'Université libre de Bruxelles.
Bonsoir Nathalie Brac.
Bonsoir.
Alors, Theresa May a à peine quitté Londres que la contestation semble monter en flèche au Parlement. Selon Sky News, une information, attention, qui n'est pas du tout confirmée, mais les 48 lettres de députés conservateurs nécessaires pour la faire chuter auraient été réunies. Est-ce que le report du vote sur l'accord du Brexit hier était une bonne idée finalement ?
Je pense que c'était une bonne idée dans le sens où elle savait qu'elle n'aurait pas de majorité, donc elle aurait subi une forte défaite dans son propre camp. Donc elle n'avait pas vraiment le choix parce que ça aurait vraiment entamé sa légitimité. Maintenant, ça se retourne contre elle parce que certains qui la soutenaient encore plus ou moins se sentent floués dans le droit de pouvoir s'exprimer sur le deal, et le fait qu'il n'ait pas de date fixée pour un nouveau vote ne fait que renforcer le sentiment des députés dans son propre camp.
C'est-à-dire qu'elle devient, elle deviendrait en fait elle-même finalement le problème.
Elle a réussi par le passé à contourner les obstacles. Encore le mois dernier, ils n'ont pas réussi à réunir les 48 lettres. Mais là, on commence à se demander si sa personnalité en tant que telle n'est pas remise en cause et sa capacité à mener le Brexit à son terme en respectant la volonté des membres de son parti.
Theresa May est en tournée donc, de l'autre côté de la Manche. Elle peut obtenir en fait quelque chose qui est vraiment à la marge. Qu'est-ce que ça peut être et est-ce que ça peut suffire ?
Donc ce qu'elle, elle voudrait, c'est obtenir une interprétation de la clause dite backstop, c'est-à-dire la clause qui veut que si aucun accord n'est trouvé au final sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'Irlande du Nord va demeurer dans une union douanière et certaines règles européennes continueraient à s'appliquer en Irlande du Nord pour éviter une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Et elle voudrait obtenir un texte de ses partenaires européens qui permettrait de rassurer ses propres membres du Parti conservateur, par exemple que le Royaume-Uni pourrait avoir voix au chapitre sur la mise en place de cette clause backstop et pourrait éventuellement en sortir à un moment donné à un autre, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout garanti qu'elle l'obtienne. Les chefs d'État et de gouvernement ont annoncé certains sont prêts à l'aider pour obtenir le soutien du Parlement, mais pas aller jusqu'à renégocier la clause du backstop.
Et est-ce que selon vous, ça pourrait suffire à apaiser la situation à Londres ?
Si elle parvient en effet à obtenir des concessions du type le Parlement britannique aura son mot à dire sur cette clause du backstop, sur sa mise en place et sur sa prolongation par exemple, là ça pourrait calmer le jeu. Si c'est simplement une interprétation qui ne change absolument rien à la clause du backstop, je pense qu'elle risque d'avoir encore des fortes contestations internes.
Nathalie Braque, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nathalie Braque, professeure à l'Université libre de Bruxelles avec Juliette Gerbrand. Et plus le temps passe et plus les opposants au Brexit reprennent espoir, d'autant que la question démographique pourrait bien peser en leur faveur dans la balance si un deuxième référendum avait lieu. Plus de jeunes voteraient massivement pour un Royaume-Uni au sein de l'Europe. Marie Billon a rencontré certains de ces jeunes britanniques qui se battent activement contre le Brexit.
Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre des jeunes gens en train de déchirer et brûler les 585 pages de l'accord négocié par Theresa May. Ils font partie de l'organisation créée par des jeunes anti-Brexit, l'OFOC, qui est l'anagramme de Our Future, Our Choice, notre futur, notre choix. Le groupe est habitué à ce genre de coups de pub, mais avant le vote au Parlement, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, comme l'explique l'un de leurs fondateurs, Femi.
Là, on est là pour envahir, on peut dire, le Parlement, avec un gros groupe de jeunes, disant qu'il faut rejeter le deal, le traité qu'ils ont négocié avec l'UE et qu'il faut avoir un référendum sur ce traité.
Ils sont quelques dizaines de jeunes gens. Certains ont obtenu des rendez-vous avec les députés de leur circonscription. Ils font en fait du lobbying. Femi n'a pas pu rencontrer son député, mais il compte parler à un maximum d'élus pour leur expliquer pourquoi il ne veut pas du Brexit.
Moi, je peux dire que l'Erasmus était la meilleure année de ma vie. J'ai pu étudier dans une université française, c'était à Brest. La vie européenne, c'est ma vie. Et l'idée qu'on va s'isoler, c'est contre toutes les valeurs de notre génération. Genre, nous, on est plus connectés au monde à l'extérieur que n'importe quelle génération avant, avec les portables, avec tout ça, donc... L'idée qu'on s'isole dans ces pays, c'est pas ce qu'on veut.
Ils sont nombreux aujourd'hui justement à être venus voir leurs députés pour leur dire que la sortie de l'UE ne se fait pas en leur nom, comme Nick et Mathilda qui viennent tout juste d'avoir 18 ans.
C'était une décision prise sans ma voix, sans les opinions de ma génération.
Le Brexit va nous affecter, nous les jeunes, bien plus que tous les autres. Et je trouve ça très injuste que les plus âgés aient pris cette décision pour nous alors qu'ils n'auront pas à vivre avec les conséquences. France. Nous devrions tous avoir notre mot à dire.
Aujourd'hui, la question des jeunes et de la démographie est centrale dans ce débat très politique. 1,4 million de jeunes ont passé la barre des 18 ans depuis le vote de 2016 et selon l'Institut de sondage YouGov, 87% des moins de 25 ans voteraient aujourd'hui pour rester dans l'UE. La balance a déjà bougé donc en défaveur du Brexit selon certaines études. Même si aucun électeur ne changeait d'avis, il y aurait en début d'année prochaine, mathématiquement, plus d'anti que de pro-Brexit au Royaume-Uni, de quoi alimenter les espoirs des tenants d'un second référendum. Marie Billon, Londres, RFI.
Un reportage à retrouver dans son intégralité sur le site de RFI, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Qu'est-ce qui fera les grands titres de la presse française demain? Nous sommes avec la rédaction du Figaro. Bonsoir Arnaud Delagrange.
Bonsoir.
À lire demain, mercredi, un article sur le pouvoir d'achat des Français. Vous dites que l'exécutif laisse filer les déficits. Pour quelles raisons?
Oui, alors Édouard Philippe est monté au front aujourd'hui pour défendre les mesures annoncées par Emmanuel Macron hier. Donc il a un peu assuré le service après-vente des annonces du président de la République. Et c'est vrai que, alors évidemment, les mesures techniques pour doper ce fameux pouvoir d'achat ne sont pas encore très calées. On voit bien qu'il y a pas mal de flou, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elles seront en partie financées par le déficit, avec pour conséquence de dépasser la fameuse barre fatidique des 3% du PIB. Et on sent bien que déjà, il y a un trouble à Bruxelles qui est perceptible devant les annonces du président de la République, sachant que la France était évidemment posée un peu en chantre de la relance européenne. Et évidemment, vis-à-vis de nos partenaires européens, notamment allemands, il y a un certain malaise qu'il va falloir dissiper.
Dans vos colonnes également, une enquête dans l'infirmerie psychiatrique de la police parisienne. Alors, à quoi assiste-t-on dans cette infirmerie?
Alors oui, c'est une exclusivité. Là, c'est un voyage au sein de l'I3P. Alors c'est un sigle un peu étonnant, mais qui en effet recouvre cette unité psychiatrique de la préfecture de police, qui en fait est un endroit étrange, hein, qui suscite beaucoup de fantasmes, qui a été créé en 1872, c'est-à-dire à la même période des grands hôpitaux psychiatriques, et qui est géré par Sainte-Anne, et qui en fait recueille tous les personnes en crise ramassées sur le pavé parisien, soit pour cause d'automutilation, de tentatives de suicide, de harcèlement, d'errances diverses, de schizophrénie. C'est à peu près 2000 personnes par an. Et c'est vrai que là, on raconte un peu tout ça. Et c'est, si vous voulez, à travers ce panorama en fait de l'I3P, on voit un peu tous les maux de notre époque.
Et puis le Premier ministre polonais vous a accordé une interview à propos de l'Europe. En quelques mots, que vous dit-il, Arnaud?
Eh bien, alors c'est assez intéressant parce que c'est évidemment, on connaît le problème polonais qui est souvent en délicatesse, le régime qui est en délicatesse avec les valeurs européennes. Là, c'est plutôt le visage modéré du régime ultra-conservateur polonais. Et il nous raconte, ce Premier ministre, il nous raconte comment, pour lui, la solution réaliste, c'est de bâtir une Europe des nations et non pas de bâtir des espèces d'États-Unis d'Europe. Donc voilà, cette interview est intéressante pour nous raconter un peu la vision de tous ces pays d'Europe de l'Est.
Une interview et puis évidemment les autres sujets dont vous nous avez parlé, Arnaud Delagrange, sont à retrouver dans le quotidien Le Figaro, daté du 12 décembre, un journal à retrouver en ligne. Très bonne soirée.
Bonsoir.
On vous emmène ce soir au Musée Royal de l'Afrique Centrale de Tervuren, en banlieue de Bruxelles, en Belgique. Le plus grand musée du monde consacré à l'Afrique a ouvert ses portes ce week-end. Sarah Tisser, vous nous guidez. L'établissement avait été fermé pendant 5 ans, le temps de rénover ses bâtiments, mais aussi sa façon de raconter l'histoire.
Oui, et les collections de ce musée créé il y a 120 ans par le roi Léopold II comme un outil de propagande coloniale sont impressionnantes. 120 000 œuvres ethnographiques, 3 km d'archives, des millions d'insectes et animaux, du papillon à l'éléphant grandeur nature. C'est aujourd'hui à la fois un centre de recherche et un musée dont l'exposition permanente datait des années 50. Le directeur Guido Grisel.
On les appelait le dernier musée colonial au monde. On présentait toujours le regard de la Belgique sur le Congo d'avant l'indépendance. Une image du passé colonial comme une activité de civilisation. Donc on voulait changer drastiquement pour un établissement qui est quand même le centre de référence le plus important au monde pour l'Afrique centrale.
Alors l'édifice a été rénové, les espaces doublés, 150 écrans multimédia installés dans les salles, mais le défi c'était surtout de décoloniser ce bâtiment aux murs imprégnés d'histoire coloniale.
Alors ici, on est dans un endroit avec une énorme coupole par où les visiteurs sont entrés jusqu'en 2013.
Allez, on suit Claire Poina du service des guides.
Et dans cette rotonde même, il y a des grandes sculptures dorées qui portent des noms évocateurs comme la Belgique apportant la civilisation. On voit un missionnaire qui pose une main tout à fait paternaliste sur l'épaule d'un Africain. Et c'est assez frappant d'observer la différence de taille entre le petit Africain et le grand missionnaire blanc. Tout ce qui est sur les murs, c'est classé, on ne peut pas y toucher. Alors pour apporter un contrepoint à cet imaginaire, on a commandé une œuvre à un artiste qui s'appelle Aimé Mpané, congolais qui vit ici en Belgique. C'est une tête de profil qui est assez massive, hein, qui remet l'Africain au cœur.
C'est elle qu'on voit d'abord en entrant dans cette salle désormais.
Tout à fait.
Plus loin, une installation de Freddy Tsimba essaie tant bien que mal d'évoquer les centaines de milliers de victimes congolaises de la colonisation dans une salle où les noms de 1500 Belges morts au Congo avant 1908 sont gravés dans le marbre. Une dizaine d'artistes congolais contemporains ont ainsi été mis à contribution pour apporter des contrepoints.
Et puis l'histoire coloniale, Sarah, est désormais évoquée.
Dans toute sa violence, oui, photos et documents à l'appui.
Il est question des violences qui a engendré l'exploitation des populations pour avoir de plus en plus de caoutchouc, mais aussi construire des routes, des voies de chemin de fer, etc. On a un masque Pende qui est exposé ici, qui représente un blanc comme un ogre qui veut toujours plus.
Ce qui est nouveau également, c'est la place accordée à l'histoire précoloniale pour rappeler que le Congo n'est pas né avec l'arrivée des colons. Nous voici avec l'archéologue Alexander Livingstone-Smith devant un masque du 8e ou 9e siècle.
C'est le plus ancien masque de ce type trouvé en Afrique centrale. C'est un objet en bois extrêmement fragile. Les vitrines ne permettaient pas de l'exposer auparavant. Mais toute cette salle est là grâce à la rénovation du musée. Alors elle parle de cette histoire méconnue d'avant la colonisation. Quand les Portugais sont arrivés sur la côte du Congo à la fin du 15e siècle, ils ont été très étonnés de tomber sur un royaume extrêmement semblable au leur. C'était un état centralisé de très grandes dimensions. Le royaume Congo n'utilisait pas l'écriture avant le contact avec le Portugais. Il n'utilisait pas la roue et n'utilisait pas le cheval, mais avec d'autres moyens, il tenait des territoires gigantesques.
Et là, Sarah, nous sommes bien au 21e siècle.
Oui, vous entendez un robot de plus de 2 mètres en aluminium, comme ceux que l'ingénieur Thérèse Inza a installé à Kinshasa pour faire la circulation. Car le musée s'efforce aussi désormais de raconter l'Afrique contemporaine, à travers aussi ses rites, ses langues ou sa musique. Au total, des efforts louables que certains jugent encore insuffisants. Écoutez ce qu'en dit la journaliste Ayoko Mensah. Elle figure parmi les afro-descendants consultés pour la rénovation du musée.
Les débats, oui, ont été très forts sur, par exemple, jusqu'à quel point la richesse de la Belgique s'est construite sur l'exploitation des richesses du Congo. Voilà, on n'avait pas forcément le même point de vue du côté de la diaspora et du côté des scientifiques du musée. Ce qui a changé, c'est effectivement une approche beaucoup plus interactive et on a vraiment des témoignages directs.
De gens qui vivent au Congo ou de la diaspora ?
C'est ça, ce qu'on n'avait pas avant en fait. Pour nous, c'était essentiel. Je pense que nous, on avait aussi des revendications qui n'ont pas été prises en compte.